Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. Échec du Rassemblement National et de La République En Marche au Régional. Est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? C'est notre question jusqu'à 13h.
Oui, et alors on a appris que l'un des petits bonheurs des Français, c'est de se faire un petit plateau repas tout seul ou avec ses proches, sa famille, devant la télévision. Mais est-ce que le repas familial reste encore un rituel, une tradition? Pour moi, c'est plutôt oui, pour Emmanuel, c'est plutôt non. Bah, on vous attend au 32-16, on va en débattre.
Et à 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. A gagné cette semaine un séjour d'une semaine Mona Lisa pour 4 personnes dans les résidences Noémie. Vous pourrez choisir les Pyrénées, les Alpes du Sud ou du Nord pour gagner votre séjour et partir ensemble en vacances. Enfin, ensemble, vous et votre famille, je veux dire. Vous envoyez JEU par SMS au 732-16. Mais avant, on va reparler des régionales ensemble. Il n'y aura pas eu de sursaut démocratique. L'abstention est restée au niveau du premier tour à 66%. Plusieurs éléments à retenir. Les présidents sortants de régions ont tous été réélus. Carole Delga en Occitanie, Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et bien d'autres. Le Rassemblement national n'a percé nulle part et La République En Marche a enregistré de faibles scores partout en France. Les deux partis présents au second tour des dernières présidentielles n'ont donc pas convaincu. Pour le candidat perdant de la région PACA, Thierry Mariani, c'est clair, il n'avait aucune chance. Tout le monde était contre le Rassemblement national. On l'écoute.
Je prends bien sûr ma part dans cette défaite et je l'assume. Mais soyons clairs, ce que nous vivons est surtout une défaite pour la démocratie et l'expression de la volonté populaire. Notre liste a été battue par tout un système coalisé, par un candidat qui a vu les 3 derniers présidents de la République voler à son secours, par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis, des macronistes aux communistes, lui venir en aide pour éviter sa défaite.
Voilà Thierry Mariani, c'était hier soir après sa défaite. Alors que nous disent ces régionales sur les prochaines élections? Le duel Macron-Le Pen aura-t-il lieu en avril prochain? Laurent, tu dis oui.
Moi je dis
tu dis oui, ça change tout.
En tout cas oui, c'est ça, je dis que ces élections régionales changent tout. D'abord, elles obligent à nous poser toute une série de questions. Finalement, le Front Républicain, on vient d'entendre Thierry Mariani, ça marche, on nous avait dit que c'était mort, mais ça marche encore. Et je vais vous dire, ça marche même mieux qu'il y a 6 ans. Ça, c'est quand même un vrai changement. Est-ce que ce fameux plafond de verre du Rassemblement National, qui prévaut à chaque élection locale et intermédiaire, est-ce qu'il va à nouveau fonctionner pour la prochaine élection présidentielle? C'est un vrai sujet. Deuxièmement, c'est un échec terrible pour La République En Marche. Est-ce que c'est un problème pour Emmanuel Macron et lancer une dynamique pour la présidentielle de 2022? Mais pardon, tout le monde nous parle d'un duel Macron-Le Pen. Moi, j'ai l'impression que depuis hier, il y a une troisième force qui se dégage, c'est la droite. La droite est le premier parti de France. Il l'était déjà au moment des municipales, il l'est à nouveau au régional et au départemental. Dans les sondages, dans les projections pour la future présidentielle, on a même un Xavier Bertrand qui n'est plus qu'à 6 points de Macron et de Le Pen. Donc le match à 2 est déjà devenu un match à 3. Ça veut dire que donc les choses ont déjà commencé à changer et comme on ne sait pas encore quel sera vraiment le candidat de la droite ni même quel sera le candidat de la gauche, ben je pense qu'une fois de plus les Français vont déjouer tous les pronostics comme à chaque fois.
Emmanuel, pour toi c'est une élection qui ne veut rien dire?
Non, c'est une élection qui ne veut rien dire. D'abord parce que cette élection, c'est pas que les Français sont lassés de la démocratie ou qu'il y a de la défiance. Quand ils votent par défiance, les Français, ils votent pas comme ça. Il y a d'autres formes d'expression que l'abstention massive. C'est tout simplement qu'ils pensent que cette élection ne sert pas à grand chose. Et encore une fois, on peut pas leur donner complètement tort parce qu'on a beau nous faire des grands discours. Oh, la région, c'est important. Oh, le département, c'est important. Je rappelle quand même qu'en France, que quand il y a 100 euros d'argent public dépensés, il y en a que 7 ou 8 qui sont dépensés par les départements ou les régions. Donc les gens ont bien compris qu'on vivait dans un système faussement décentralisé et que le pouvoir des départements et des régions, en fait, c'était en grande partie artificiel et que les marges de manœuvre étaient finalement assez faibles. Et puis, moi, franchement, je pense qu'il n'y a pas de mouvement politique français très fort, contrairement à ce que dit Laurent. la droite modérée, la droite républicaine, est depuis toujours le premier parti de France. La dernière élection présidentielle, la réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu l'affaire Fillon, le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça aurait été Emmanuel Macron face à François Fillon. Hein, rappelons qu'il est à un peu plus d'un point de Marine Le Pen. On peut penser que quand même, sans cette affaire, il aurait été au deuxième
tour.
Tout
est ouvert.
Donc, oui, moi je pense que la droite reste de la force majoritaire. Enfin, la France est un pays de centre-droit. Voilà, et je pense que là-dessus, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Voilà, donc moi, pour moi, cette élection, elle ne m'apprend rien, elle ne change pas l'équilibre politique français. Donc je pense qu'effectivement, les cartes ne sont pas du tout rebattues.
Eh bien, on va aller au 32-16 dans un instant. Lisa Marie, bonjour, on peut voter sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Face aux résultats des élections régionales, on vous pose la question, est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC depuis votre téléphone.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Ismaël qui nous appelle depuis Massy, qui est routier. Bonjour Ismaël.
Oui, bonjour.
Toi, tu n'as pas du tout l'impression que c'est plié, tu es plutôt côté Emmanuel Le Chypre.
Oui, d'autant que j'adore Laurent, mais là, forcé de dire que
il a tort.
Moi, non, oui, parce que moi, je confonds pas. Moi, je parle avec beaucoup de gens. J'étais voté dimanche dernier, donc sur l'Île-de-France, et puis j'étais voté bon PS ou la REM, quoi, parce que je voulais pas que cette gauche unie passe. Mais après, ni moi ni mes enfants ont été votés, et voilà. Et nous, en Île-de-France, on se fout de savoir ce qui se passe en Bretagne ou en PACA. Je veux dire, c'est des élections régionales qui n'ont pas beaucoup d'importance. Voilà, on voulait pas bouger, ça nous intéresse pas trop. C'est loin de nous, si vous voulez, c'est très loin de nous, les régions. Ça nous impacte pas.
Du coup, t'as l'impression que ceux qui ont gagné là se voient déjà pour la future étape rapide.
Moi, j'ai vu là. Alors, franchement, j'ai vu. J'ai vu celui de Hauts-de-France, là. J'ai vu
Xavier Bertrand.
Xavier Bertrand, Wauquiez. Alors là, le retour de Wauquiez, alors là, ça mourir de rire. Mais là, franchement, c'est nous, on sait, moi, ma femme, mes enfants, on sait qu'à la prochaine présidentielle, on sait pour qui on va voter et on va y aller en masse. Mais c'est cette élection, pour nous, elle passe complètement à côté. Elle nous touche pas, elle n'est pas proche, elle est très loin, très très loin. Ce n'est pas les municipales.
Ça devrait être le contraire. Enfin, tu dis elle est loin, alors qu'en fait, elle devrait être sur des problématiques plus proches.
Oui, mais moi je pense que si la région Île-de-France est prise par la gauche, bon pas cette gauche-là, mais que ce soit la droite ou un autre parti, l'école sera quand même rénovée, les routes seront faites, je veux dire ça nous impacte pas, c'est loin de nous, très loin de nous.
Non mais Ismaël, moi quand je dis que les cartes sont rebattues, tu seras quand même d'accord avec moi pour dire que les sondages, la petite musique ambiante nous explique en gros que le duel de la prochaine présidentielle, il est déjà réglé comme du papier à musique. Ce sera Macron-Le Pen au second tour. Or, je note que après les municipales et a fortiori après les régionales, t'as quand même une troisième force et Emmanuel a raison. C'est vrai que le pays est à droite et le pays est de centre-droit. Enfin, les résultats électoraux de la droite depuis plusieurs années étaient quand même pas brillants. Oui, il y a eu l'affaire Fillon. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Fillon ne serait sans doute pas parvenu au second tour malgré l'affaire, même s'il n'y avait pas eu l'affaire à cause de ce qu'il proposait. Mais c'est un avis personnel et on fera pas l'histoire, je peux me tromper. Mais là, tout à coup, depuis les municipales et a fortiori depuis les régionales, on se rend compte que la droite est encore très très bien implantée dans ce pays et que si elle arrive à faire émerger un leader, c'est en réalité ce qui lui manque, et un leader qui a un programme et des idées, elle peut très bien bousculer le duo que tout le monde nous présente comme acquis. Voilà. Moi, je dis juste ça. Et en plus, j'ajoute que à chaque élection, notamment pour les présidentielles, à chaque fois, les électeurs ont totalement bousculé tous les pronostics. Je peux te faire l'histoire. Depuis 20 ans, ça ne s'est jamais passé comme prévu. Jamais.
Oui,
c'est tout ce que je dis.
Vrai. Attends, Laurent, c'est pas vrai. Oui. Tu peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, il y a eu quelques exceptions, mais enfin, est-ce que tu considères que le deuxième tour, Sarkozy-Hollande, c'était une telle surprise?
Hollande, à la présidentielle, c'est pas forcément écrit.
T'as oublié qu'Hollande partait à 3% dans les sondages.
Sarkozy, Ségolène Royal, en quoi c'était? Enfin, je veux dire, il y a une histoire, chaque campagne a son histoire. Alors que tu me dises un an à l'avance, on sait pas qui sera le candidat, mais enfin, t'avais toujours, finalement, une finale, que c'était, à part l'accident Jospin de 2002.
Je te rappelle que même
t'avais toujours une finale, gauche modérée, droite modérée.
Hors l'accident Fillon. tout le monde pensait qu'Alain Juppé était le futur président de la République, excuse-moi. Et d'ailleurs, Juppé avait déjà plié le match de la primaire à droite.
Parce que là, tu t'acharnes sur les hommes. Mais la réalité, c'est
bien
que...
C'est bien de ça dont on parle.
Non, parce qu'on parle des idées et des camps politiques. Et globalement, t'as toujours gauche modérée face à droite modérée, hormis en 2002. Voilà.
Reste avec nous, Ismaël. On était avec Frédéric qui nous appelle depuis QC dans l'Allier, qui est fonctionnaire. Bonjour Frédéric.
Bonjour tout le monde.
Toi, tu penses que c'est plié ou pas ?
Non, c'est un petit peu mitigé entre l'avis de Laurent Emmanuel, parce que en fait, les gens se rendent pas compte, mais la plupart qui sont allés voter votent pour envisager les présidentielles. Alors que peu importe le président qu'on aura l'année prochaine, le président de région, ça sera toujours le même. C'est vrai que c'est pas évident de voir ce que font les régions ou les départements. Mais de mon point de vue de fonctionnaire, je côtoie beaucoup de collègues de la région ou du département. Et on se rend un peu plus compte de l'importance de ces institutions. Et c'est ça qui est flou, c'est que pour les Français, on ne sait pas exactement pourquoi on vote. Et puis derrière, ça a été un melting pot. Je vois dans ma région, les écologistes, entre guillemets, sont arrivés deuxième derrière Laurent Wauquiez. La problématique, c'est que mon écran de télé n'était pas assez grand pour mettre le nombre de formations politiques qui étaient dans ce mouvement. Il y avait LFI, PCF, PS, Europe Écologie. Donc en fait, on ne sait plus pour qui on vote. On ne sait plus pourquoi on vote vraiment. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien. Après, voilà, l'année prochaine, on dit Macron-Le Pen. Pourquoi ? Parce que c'est les deux têtes qui sortent d'un parti unique. Mais quand on voit les élections là, avec tellement de cafouillis de formations politiques différentes... Eh ben, on sait plus. Là, les gens, est-ce qu'ils ont voté pour les écologistes, pour le Parti communiste, pour la France insoumise ou pour le Parti socialiste?
C'est vrai que c'est pas toujours très clair, ouais.
Personne le sait. Et du coup, au bout d'un moment, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrive avec des élections où on vote pour quelqu'un et non pas des élections où on vote contre quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que les gens sont élus non pas parce qu'on a voté pour lui, pour son programme, mais parce qu'on ne veut pas que son adversaire passe. Donc, on vote contre. Les présidentielles, si je discute avec les gens autour de moi, personne n'a voté pour Macron, mais tout le monde a voté contre Le Pen. Et la problématique, c'est que quand on prend un choix par défaut, c'est le choix entre la peste et la choléra.
Frédéric, c'est vrai, oui. de tous les scrutins à deux tours. Au premier tour, tu choisis le candidat qui a le plus tes faveurs, qui est le plus proche de tes convictions personnelles. Et au deuxième tour, quand il en reste plus que deux, tu élimines. Donc tu choisis le moins mauvais des deux si ton candidat n'est pas qualifié pour le second tour. C'est un classique, c'est un invariant structurel.
Pierre Ismaël, juste avant, il a bien dit qu'il allait voter l'AREM ou je ne sais plus quel parti politique parce qu'il ne voulait pas du PS. Donc encore une fois, il a voté pour quelqu'un parce qu'il ne voulait pas de cette personne. Il n'a pas voté pour avoir cette personne au deuxième tour. Il a voté pour éviter que une personne aille au deuxième tour.
Mais Frédéric, tu as l'air de dégager ça d'un revers de main, mais c'est une conviction comme une autre. Pardon, en Île-de-France, pour ceux qui ne voulaient absolument pas de cette coalition de gauche, c'est parfaitement respectable de dire je vais voter contre, même si je ne partage pas toutes les convictions de celui pour lequel je vais voter.
C'est là où rien n'a changé non plus. C'est qu'en fait, tu découvres quoi ? Tu découvres que les partis de gauche ne sont pas solubles dans une seule grande formation de gauche. C'est-à-dire pourquoi il y a eu un échec de toutes ces coalitions qui allaient de LFI jusqu'aux écolos, c'est qu'il y a des tas d'électeurs de gauche traditionnels qui ne sont pas prêts à voter pour l'extrême gauche, qui ne sont pas prêts à... comme avant.
Tu prends deux régions, mais c'est pas vrai dans les autres. La gauche a gagné 5 régions et dans certaines, elle était coalisée avec toutes les formations politiques.
Écoute, moi je trouve que notamment le cas de l'Île-de-France. L'Île-de-France, tu vois bien qu'il y a des gens qui sont sans doute des gens de gauche qui ne sont pas prêts à voter pour l'extrême gauche, comme avant.
Et on va continuer à parler des régionales et de leur impact sur les futures présidentielles ensemble. Merci beaucoup Ismaël et Frédéric d'être venus débattre avec nous. Dans un instant, on sera avec Bruno Cotterès, politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Bruno Cotterès, l'homme le plus pédagogique de France, je te le rappelle Laurent, c'est comme ça qu'on l'appelle dans Neumann le Chiffre. À tout de suite sur RMC.
Midi 14h.
Neumann le Chiffre.
Neumann le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. Échec du Rassemblement National et de La République En Marche au régional. Est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? C'est notre question jusqu'à 13h. Pour Laurent Neumann, oui, le match à 2 est devenu un match à 3 ou à 4. Pour Neumann le Chiffre, non, pas du tout. À un tel niveau d'abstention, cette élection ne signifie rien. Et certains candidats, certaines gagnantes, même préparent déjà la suite. Écoutez, Valérie Pécresse, elle était ce matin avec Jean-Jacques Bourdin.
Aujourd'hui, je crois qu'on peut plus jouer solo. Notre responsabilité, oui, c'est de nous réunir. Oui. Notre responsabilité, c'est de jouer collectif. C'est de faire émerger la troisième force. Cette troisième force, bah, elle n'est pas cantonnée dans un parti, puisqu'il y a d'un côté les Républicains, mais il y a la Manufacture, il y a Libre, il y a les centristes d'Hervé Morin, il y a les UDI, il y a des talents en dehors des Républicains, et donc c'est un collectif qu'il faut créer. Et une règle du jeu collective.
Alors, quelle
qu'il faut
règle
mettre
du jeu,
en place.
Une primaire?
Voilà Valérie Pécresse qui se donne l'été pour savoir si elle sera candidate à la présidentielle et qui a gagné hier la région Île-de-France.
Pardon, je commente juste ce que vient de dire Valérie Pécresse. C'est pour ça que le match n'est pas plié et que les cartes sont rebattues. C'est qu'il faut que la droite arrive à trouver un mode de sélection de son futur champion. Pour le moment, c'est vrai que Xavier Bertrand a pris un temps d'avance. Même dans les sondages pour la présidentielle, il est donné à 18 quand Wauquiez et Pécresse sont donnés à 13 ou à 12. Mais ça ne veut pas dire qu'il a plié le match pour le moment et qu'il va bien falloir trouver un moyen de choisir le candidat. Mais une fois que ces candidats seront choisis à droite et à gauche, moi je pense que les cartes sont rebattues et que croire que le film est déjà joué d'avance et qu'on connaît la fin par avance, je pense que ce serait une grosse erreur à ne pas commettre là maintenant aujourd'hui.
Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous n'êtes pas d'accord avec ce que tu es en train de dire Laurent, puisque vous êtes 70% à répondre non pour vous, les cartes pour la présidentielle ne sont pas rebattues, vous êtes plutôt de l'avis d'Emmanuel Le Chypre.
Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre
32-16.
Et on est avec Emmanuel qui nous appelle depuis le 15e arrondissement à Paris, qui est chef d'entreprise dans le prêt-à-porter. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Toi tu penses justement comme Laurent que la droite a des choses à faire et qu'il faut qu'elle se reconstruise.
Ah mais moi je pense et je suis persuadée, et cet avis je l'avais déjà avant les municipales, que la droite a sa carte à jouer, mais s'il se focalise sur Xavier Bertrand, sur Wauquiez et Pécresse, ils vont à la défaite directe. Et il y a un personnage, je ne fais pas du tout de politique, hein, mais je m'intéresse vraiment beaucoup. Et en ce moment, je regarde une personne qui s'appelle David Lisnard.
Mmh. Ouais.
Et je pense qu'un
prénom... C'est le maire de Cannes,
c'est ça? Lisnard,
maire de Cannes,
Rotello,
ouais.
et Bellamy, au moins, ils proposent en fait ce que les gens ont besoin. En fait, les gens n'ont plus besoin qu'on leur dise « je votais contre ça, votais contre ça ». Ils ont besoin qu'on leur propose quelque chose, qu'on leur propose un projet, ok ? Il ne faut pas non plus mettre de côté ses résultats, par exemple en PACA, ok, Mariani a perdu, néanmoins, il a perdu seul avec 43% des voix, ce qui me paraît quand même un signal et quelque chose d'important. Donc si la droite refuse d'écouter ses électeurs du RN, qui ne sont pas tous fachos comme on peut le penser, il va à la déroute. Si on écoute ce projet du maire de Cannes, Lisnard, Rutello, etc., il parle un petit peu à ses électeurs de droite, je ne dis pas extrême droite, mais de droite qui ont dans leur tête...
Alors justement, on a Philippe qui est avec nous depuis Cannes, tu parlais de David Lisnard. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous, à toute l'équipe. Là.
Toi, tu es retraité de la gendarmerie. Philippe, ouais, tu entends Emmanuel qui, du 15e, regarde ce qui se passe à Cannes. Il y avait un projet chez toi?
Alors, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre qu'il y a des Parisiens qui savent que le maire de Cannes a bien sûr un projet, un très bon projet. Moi, j'ai un seul regret pour lui. Bon, il a eu deux, trois derniers propos qui n'étaient pas terribles. Mais c'est vraiment un gars qui peut mettre ses compétences au service de la France. Ça, j'en suis persuadé. Cannes, en effet, oui, c'était un très bon laboratoire. Après que Retailleau et Bellamy viennent se mettre dans la roue de David Lisnard, bon, ouais, je crois qu'il lui faudra quand même quelqu'un de stature nationale à côté de lui pour le faire émerger. Après, pour revenir à votre débat, les amis, moi je dis qu'il n'y a rien qui est joué. Hein. Les élections régionales et départementales, eh ben c'est pas l'incarnation d'une image, hein, d'un visage, comme peuvent l'être les présidentielles. Donc on va voter pour celui qu'on connaît, qui est à côté de soi. On connaît Muselier, on connaît Pécresse, on connaît Bertrand, on connaît Roussel dans le Sud-Ouest. Donc on va voter pour lui. Et les gens qui veulent voter pour ça, ils votent pour les gens qu'ils connaissent. Ils votent pas pour un parti politique, pour Marine Le Pen ou le Rassemblement National. L'année dernière, enfin il y a 6 ans, il y avait Marion Maréchal. Donc elle incarnait quelque chose, c'était un visage, on votait pour elle. Marine Le Pen dans le Nord, on votait pour elle parce que c'était Marine Le Pen. Là, très honnêtement, Chenu, Mariani, ça fait rêver personne, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, les élections régionales, départementales, on en a marre. Il faut la faire, cette réforme territoriale. Ça ressemble plus à rien, notre France. On a les communes, on a les intercommunalités, on a les agglomérations, on a les départements, on a les régions. Stop. Les gens, ils savent plus pourquoi ils votent. Donc, il faut refaire une réforme territoriale avec des élections territoriales, la fusion des régions et des départements comme voulait le faire Balladur à une époque, et Sarkozy n'a pas eu le courage de le faire.
Là, tu rejoins Emmanuel Le Chypre, hein, clairement. Toi, c'est ce que tu dis tout le temps. On ne comprend rien à ce que font les régions, et c'est aussi pour ça que les gens ne votent pas.
À un moment donné, il faut être rationnel. Et puis, Emmanuel parle de 7 euros dépensés par les départements sur 100 euros. Mais combien on en donne d'impôts à ces départements, à ces régions, pour des retours pour lesquels on voit des choses, oui, on voit, il y a des trains qui circulent, super, il y a des lycées qui existent, mais personne ne sait que c'est les régions ou les départements qui votent, qui bossent pour le collège et le lycée, personne ne le sait, il y a que les 20% qui vont voter qui le
non
savent.
Non, mais Philippe,
il faut réformer ça déjà.
Philippe, on peut partir. Philippe, on peut partir d'un principe, et toi et moi, je suis sûr qu'on sera d'accord, c'est que les électeurs, ils se trompent pas. Voilà. S'ils ont pas été votés, pardon, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Et moi, j'ai entendu hier soir sur tous les plateaux de télévision des responsables politiques expliquer que l'abstention, c'était la faute du gouvernement qui avait mal organisé les élections, que c'était la faute des sondeurs, que c'était la faute des médias, etc. J'en ai pas entendu un seul dire, mais c'est de notre faute à nous. À nous, responsables politiques.
Ils le disent, mais du bout des lèvres.
Bon, ils le disent tous, mais qu'est-ce que ça, une fois qu'ils ont dit ça, non, qu'est-ce que ça change?
C'est pour ça qu'encore une fois, je trouve que pas grand-chose n'a changé. Pour revenir à ce que disait Emmanuel. Qui est abondance de candidats à droite, bah c'est pas une nouveauté. Il y a toujours eu beaucoup de candidats à droite. Rappelez-vous la primaire qu'il a fallu organiser en 2017. Donc c'est pour ça que je dis à ce stade. Rien de nouveau. C'est-à-dire, à ce stade, oui, on en est au niveau où on se demande comment on va faire pour sélectionner le candidat de droite. Bah, exactement comme en 2017. Alors, ce qui serait vraiment nouveau, et là où, à mon avis, on
peut... Pas faire de primaire.
Alors, ce qui serait nouveau, c'est qu'on arrête de croire à l'homme ou à la femme providentielle. Là, il y avait des choses dans les propos de Valérie Pécresse. Si, admettons, l'équipe de droite arrivait en disant, voilà, c'est simple, voilà notre offre. On envoie à la bataille présidentielle machin ou machine qui nous représente. Mais on vous présente notre équipe gouvernementale. Voilà.
À
on vous
dit voici le
premier. Nous on cache rien. On vous dit le premier ministre, ce sera machin ou machine. Après, tac, tac, tac. Vous avez voilà. Vous voulez un jeu d'équipe? Vous voulez la formidable équipe de France dont tout le monde parle ce matin?
Non, je suis désolé.
Mais si Laurent, c'est ça la nouveauté, la nouveauté intellectuelle.
Donc toi, Emmanuel, ça te plairait, hein?
Ah mais oui, mais bien sûr, mais les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de transparence, parce qu'en fait, et l'homme providentiel, mais oui, il existe. Certains disent oui, mais Lisnard ou un autre, on ne le connaît pas. Mais qui connaissait Emmanuel Macron il y a 6 ans, mis à part qu'il était un petit peu ministre de l'économie? Mais personne. Les gens ont besoin de nouveautés. Quand même, un jeune qui voit Xavier Bertrand, je n'ai rien contre Xavier Bertrand, mais bon, on a quand même besoin de dynamisme en plus.
Non mais Emmanuel,
Laurent,
Emmanuel,
ça ne fait pas l'idée de mettre le gouvernement à plat.
Et ce programme de présenter tous les gens à l'avance, mais bien sûr, comme ça.
Alors pourquoi tu dis non, toi, Laurent?
Alors Emmanuel, je ne contredis pas Emmanuel, je contredis Emmanuel Le Chip, parce qu'Emmanuel a la raison. Pourquoi pas David Lisnard? Pourquoi pas?
Mais tu vois, toi, c'est l'un ou l'autre, et les autres sont perdants.
Mais alors, je vais te répondre.
En proposition.
Sauf à dire, là, aujourd'hui, 28 juin 2021, on change les institutions, et du coup, on n'élit plus un homme providentiel, tu aurais raison. Mais c'est pas le cas. Pardon. Dans ce pays, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont voter à l'élection présidentielle, votent pour un homme ou une femme. C'est comme
tout.
Ça.
Rien n'empêche dans la Constitution.
Tu veux dire, ça sera moi le chef. Constitutionnellement parlant, c'est pas un problème.
Constitutionnellement parlant, c'est pas tu ça. Peux dire, celui qui va à la présidentielle, c'est machin. Mais sachez que si vous élisez machin, vous ne
Philippe
serez pas dans l'espèce
quoi,
de psychodrame
non,
habituel.
Ouais,
ah, je choisis qui comme premier ministre?
Vas-y, Philippe.
Ça c'est une vision bisounours, mais
est-ce que je peux intervenir?
Oui.
Il y a déjà plusieurs problèmes. Rien n'est joué. Pourquoi? Parce que à droite, comme aussi souvent dans les autres partis, il y a un problème d'ego. Il va y avoir une guerre d'ego.
Oui.
Pas possible.
Ça c'est
entre
vrai.
Les trois que vous avez cités là.
Et, donc
et
rien ne change.
Et ça sera hyper difficile pour un gars comme David Lisnard, qui a son propre ego, mais qui lui aussi a ses réussites, d'émerger à moins qu'il soit porté par tout un parti politique. Et donc ça va être très compliqué. Deuxième chose, rien n'est joué. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit poil à gratter, un petit caillou dans la chaussure de Marine Le Pen et qui commence à arriver de plus en plus. Monsieur Zemmour, Qu'est-ce qu'il va faire, M. Zemmour? Est-ce qu'il va vraiment se présenter? S'il se présente, je vous dis tout de suite, Marine, elle n'est pas au deuxième tour. Parce qu'il va lui siphonner un nombre pas possible de voix. Donc après, la gauche, la droite, la gauche, les écolos, on les met à part, ils seront jamais au second tour. Mais rien n'est joué.
Non, droite, mais Philippe, il y a des conditions. Philippe, il y a des.
Dans les sondages, on voit que Zemmour siphonnait plutôt
Philippe,
la droite.
Philippe, il y a des conditions. Effectivement, à droite, il faut que la droite se mette d'accord sur un candidat et qu'il n'y ait plus une tête qui dépasse.
Mais est-ce qu'on arrête avec les primaires?
Attends, s'ils refont comme la dernière fois, ils vont à l'échec. Mais je pourrais te dire la même chose de la gauche. Si la gauche n'est pas capable de désigner un candidat qui puisse porter les couleurs de la gauche, mais tu vas avoir une explosion du vote à gauche avec, comme d'habitude, 4, 5, 6, 7 listes différentes. Il ne faudra pas s'étonner que la gauche ne soit pas au second tour. C'est exactement pareil.
Donc,
je te dis juste que depuis hier, il s'est passé quelque chose et que de nouveau, la droite et la gauche peuvent prétendre à quelque chose. Mais il y a tellement de conditions, conditions à remplir qu'on n'y est pas encore.
Eh bien, puisque tu ne veux pas répondre à ma question, est-ce qu'il faut arrêter avec la primaire? Je la poserai dans un instant à Bruno Cotterêts, chercheur au CNRS, qui sera avec nous tout à l'heure. Un grand merci à Emmanuel et à Philippe d'être venus débattre avec nous dans Neumann le Chypre. On revient sur RMC, vous ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre.
Neumann le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h. Échec du Rassemblement National et de La République en Marche au Régional. Est-ce que les cartes pour la présidentielle sont rebattues? Pour Laurent Neumann, c'est oui. Le match à 2 est devenu un match à 3 ou même à 4. Pour Emmanuel Le Chypre, non, pas du tout. À un tel niveau d'abstention, cette élection ne signifie rien. On va écouter Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui a fait un score assez élevé et qui explique qu'elle a gagné parce que son projet était clair à gauche.
Je ne suis pas de celles et de ceux qui ont été dans le reniement ou dans la confusion. J'incarne cette gauche du réel, écologiste et citoyenne, qui apporte des vraies solutions, qui résout les problèmes du quotidien, mais qui aussi prépare l'avenir. On peut travailler la gauche et la droite ensemble, mais quand on présente un projet, il faut dire quelles sont ses priorités. Et je pense que la clarté, c'est ce qui permettra justement de lutter contre l'abstention qui vraiment mine notre démocratie et notre République.
Tiens, on parlait de David. Delga, c'est peut-être la quatrième.
On parlait de David Lisnard à droite. Pourquoi ce serait pas Carole Delga à gauche? Pardon, j'ai regardé les chiffres hier soir. Il n'y a pas un candidat ou une candidate de gauche qui a fait son score. C'est incroyable.
Elle a une particularité, Carole Delga. Si elle a émergé au niveau national en politique, c'est qu'à toutes les élections auxquelles elle a participé, elle a toujours fait un carton. C'est comme ça que François Hollande l'avait repéré, parce qu'au niveau local, elle avait fait des scores exceptionnels, et elle continuait à faire des scores exceptionnels. Donc il y a bien un talent.
Carole Delga, vous y croyez. Bruno Cotterêts est avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po. C'est quoi la gauche du réel, Bruno Cotterêts?
Ah, la gauche du réel.
C'est pas les écolos?
Qui, je crois, continue d'exister, c'est en partie les écolos, mais c'est pas que les écolos, et c'est pas tous les écolos, sans aucun doute, qu'on peut qualifier de, entre guillemets, gauche du réel, à condition de se mettre d'accord sur l'expression, évidemment. Je pense qu'hier, on a vu que c'est vraiment intéressant ce qu'on a vu dans les élections régionales. On a vu que pour le Parti Socialiste, effectivement, ce Parti Socialiste qu'on avait dit complètement à terre, complètement en lambeaux en 2017, il a déjà conservé les régions qu'il dirigeait. Certes, il n'a pas été en position de conquête, ni les écologistes, dans des régions qui étaient plutôt des régions qui n'étaient pas acquises pour eux. L'équation n'a pas forcément fonctionné, mais on voit que dans les régions où il y a eu de la dynamique d'alliance, de fusion à gauche, ils ont retrouvé leur score des différentes listes de premier tour. Donc, c'est une information qui n'est pas inintéressante pour la gauche.
Oui, mais justement, Bruno, est-ce qu'au-delà de l'écume parisienne et médiatique, ça montre pas que l'équilibre politique du pays, finalement, n'a pas tant changé que ça et qu'il reste à peu près le même? C'est-à-dire que la gauche reste ce qu'elle est et la droite républicaine qu'on a pu voir un peu faible. Il y a eu l'effet Fillon à la présidentielle, mais que la France reste finalement un pays de gauche modérée et de centre-droit modéré.
Ce qui est certain, c'est que les formations politiques des deux grandes familles qui sont issues au fond du 19e, 20e siècle, la gauche et la droite, ont montré que ça existait toujours. Et vous avez raison, il y a beaucoup de stabilité. Quand on regarde les corrélations entre les votes qui ont été exprimés hier et les votes antérieurs à des séries d'élections nationales ou locales, on voit qu'il y a eu effectivement beaucoup de stabilité, y compris quand on regarde au niveau des élections départementales. Donc on voit que pour bousculer tout ça, pour l'élection présidentielle, c'est possible grâce à une équation personnelle, par exemple celle d'Emmanuel Macron en 2017, qui incontestablement est venue totalement perturber et bousculer, mais très vite, eh bien, la dynamique de stabilité et de retour à une certaine forme d'ordre électoral vient se manifester dès les premières élections qu'a connues Emmanuel Macron. Au fond, il y a à travers la séquence municipale de l'an dernier, régionale, départementale, cette année, mais même avec la très forte abstention dans tous les cas de figure, il y a effectivement comme une sorte de retour ou de maintien d'une forme de stabilité politique en France.
Bruno, jusqu'à présent, c'était les questions faciles. Maintenant, la question difficile. Est-ce que, oui ou non, le scénario de l'élection présidentielle de 2022, le duel que tous les sondages annoncent depuis des mois et des mois, Macron-Le Pen, est-ce que ce scénario est écrit ou pas ? Autrement dit, est-ce que les élections intermédiaires qu'on vient de voir, municipales, puis régionales et départementales, rebattent les cartes ou est-ce que le scénario est intangible à l'heure qu'il est ?
J'ai toujours dit dans mes interviews qu'à mes yeux, l'élection présidentielle de 2022 n'était pas du tout jouée, qu'elle serait une élection très compétitive, très concurrentielle. Non seulement il y a des poids lourds qui vont se présenter dans ces élections, dans cette élection présidentielle de 2022, mais il y a des éléments de ce qu'on a vécu en 2017 qui ne seront plus présents. Il n'y aura pas, sauf surprise majeure, un nouveau Penelope Gate. Il n'y aura pas, sauf surprise majeure, une candidature socialiste improvisée à la dernière seconde suite au renoncement de François Hollande. Ce sont deux éléments qui ont fortement pesé, bien évidemment, en 2017. L'élection de 2022 n'est pas jouée. Cette séquence élection régionale et départementale aura des conséquences sur la préparation de la présidentielle, mais aussi sur la stratégie et je dirais même sur la psychologie de certains des principaux compétiteurs vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Ils ne vont plus exactement avoir le même état d'esprit, ils ne vont plus être perçus exactement de la même manière par les électeurs. Donc il y aura un effet de ces élections sur la préparation de la présidentielle et sur les stratégies des acteurs.
On a vu qu'aux primaires de droite comme de gauche sur les dernières élections présidentielles, ça faisait émerger des candidats qui après ne trouvaient pas du tout leur place dans l'élection. Est-ce qu'on va arrêter avec les primaires ?
C'est pas totalement gagné encore qu'on arrête avec les primaires. Du côté des écologistes, on semble quand même se diriger vers une primaire. Yannick Jadot n'est pas arrivé à tuer le match en matière de popularité et d'intention de vote dans l'opinion. Donc il y aura sans aucun doute une primaire du côté des écologistes. La question reste entière à droite, même si on voit que le résultat des élections régionales va sans doute quand même un peu éclaircir le tableau. Sans aucun doute qu'une partie des Républicains souhaite une primaire. N'oublions pas que pour cette famille politique, néanmoins, la primaire reste associée au gros traumatisme de 2017. 4 millions d'électeurs qui se sont déplacés aux deux tours de la primaire de la fin de l'année 2016 et finalement une explosion en plein vol de François Fillon.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Gautresse, politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique.
Et lui, il répond même sciences aux questions difficiles. Oh. Hein.
Bien sûr, il n'a peur de rien, Bruno Gautresse. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Laurence qui nous appelle depuis Blois. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Toi, tu es conseillère en assurance. Tu es plutôt comme Emmanuel Le Chypre, mais tu n'as pas réussi à convaincre ta fille d'aller voter, même si elle avait 18 ans.
Tout à fait, absolument. Et pourtant, c'est un acte que j'ai toujours fait dans ma vie, d'un esprit citoyen, esprit de civisme. Mais je n'ai pas réussi à la convaincre, tout simplement parce que, comme je l'expliquais, à aucun moment, sur les plateaux télé ou même au niveau local, on a invité un conseiller départemental, un conseiller régional, à expliquer le fonctionnement du département, de la région. On en a fait un débat national à chaque fois, sur des thèmes nationaux. Et donc, à un moment donné, elle m'a posé la question en me disant, mais qui sont mes conseillers départementaux, mes conseillers régionaux? C'est qui? Donc, bah, forcément, elle n'allait pas aller voter pour des gens qu'elle ne connaissait pas ou aller... Enfin, voilà, donc...
Est-ce que c'est pour ça qu'elle va voter?
Qui fait quoi?
Mais pour la présidentielle, voilà. Elle ira voter.
Ah, pour les présidentielles? Ah oui.
Là, oui.
Ah oui. Ah oui, et je sais pour qui.
Là, elle sait déjà. Elle est.
Ah,
elle
oui,
est...
Oui. Ah oui, oui.
Donc, oui, donc elle ira voter pour un. Elle ira voter pour un candidat qui est déjà déclaré, si elle sait.
Bien sûr.
D'accord, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas déclarés encore.
Alors, attention, non, pas forcément pour le candidat, mais pour le parti.
Ouais, c'est qu'elle votera républicain, écolo, socialiste voilà,
c'est
ou...
Ça. C'est ça,
Macron.
Exactement. Ouais. Et autour d'elle, c'est pareil. Dans ses camarades, je vois bien comment je cerne bien. Moi, en plus, je suis une ancienne militante. Donc, voilà. Donc, je vois bien qu'ils sont prêts à aller voter. Ça, c'est une certitude. Mais hier, bah non, effectivement, hier et dimanche dernier, bah non, pas donc.
Mais Laurence, est-ce que tu fais partie de ceux comme Emmanuel qui disent qu'au fond, ce qui s'est passé hier ne change strictement rien et qu'au fond, on se dirige vers le match qu'annoncent les sondages, etc. Ou est-ce que tu penses que les cartes peuvent être rebattues, ce qui est, moi, plutôt mon avis, oui.
Ah mais les cartes, elles vont, moi pour moi, elles vont être rebattues. Je pense pas du tout qu'on assiste à un débat Le Pen Macron. D'abord parce que moi je suis persuadée que Emmanuel Macron ne va pas se représenter. Pourquoi? Parce que la colère, elle est toujours présente, même si effectivement là elle s'est pas manifestée par le vote du Rassemblement National. Mais les gilets jaunes, je pense qu'ils sont pas éteints. Les problèmes socio-économiques, ils sont toujours là. Et je pense qu'à la rentrée, ça va être, à mon avis, un petit peu difficile. Si en plus on a le Covid par-dessus, alors là, voilà. Et je pense qu'effectivement, comme Emmanuel Macron n'a pas su, en 5 ans, se constituer un socle, une base, constituer un parti, et d'ailleurs on le voit à ses résultats, il est que tout seul. Il n'a été élu que sur sa personnalité, et aujourd'hui, il se retrouve tout seul.
Les élections n'auront évidemment pas permis de faire émerger des hommes de Macron à la tête des régions, mais localement, il y a de plus en plus d'élus.
Oui, parce que ça, on ne le dit pas, mais la République En Marche va avoir des centaines d'élus départementaux et régionaux. Mais en revanche, là où Laurence a raison, c'est que le parti, lui, n'a pas de réel ancrage local. Il n'y a même pas un exécutif local au nom de la République En Marche. Ça,
merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chip. Quel est le résultat de nos votes à nous, Lisa Marie?
Vous êtes finalement 67% à avoir répondu non, comme Emmanuel Le Chip. Ou bien vous trouvez que les cartes pour la présidentielle ne sont pas rebattues.
On va jouer aussi.
Alors que les Français ne veulent pas du match Macron-Le Pen. Ils continuent à dire dans les sondages qu'ils voteront pour eux, mais ils n'en veulent pas normalement. C'est intéressant.
Peut-être qu'on leur propose pas d'autres noms. Est-ce que David Lisnard a été proposé? Carole Delga? Non, bon bah alors, c'est pas fini. Allez, on va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chypre.
Le C'est quoi ça?
Et on joue avec Aurélie et Myriel. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Aurélie, tu es à Saint-Romain-la-Motte et tu es coiffeuse. Myriel, tu es à Marseille et tu es infirmière. Aurélie, tu es la première à avoir envoyé ton SMS. Tu veux jouer avec Emmanuel ou avec Laurent?
Avec Emmanuel.
Ouh. Alors, là là, Emmanuel, Aurélie et Laurent, Myriel.
Salut,
c'est parti.
Myriel.
On joue pour gagner une semaine de vacances.
Là, je vais faire le max.
Dans les résidences Noémie, c'est à la montagne. Première question, entre Aurélie et Myriel, quelle équipe affronte, on n'oublie pas de buzzer avec son prénom, hein, quelle équipe affronte la France ce
Aurélie.
Soir
Myriel.
Aurélie.
La Suisse.
La Suisse, absolument. Putain, en
Aurélie,
quart
on est bien
de...
parti.
Ah ouais, Myriel, c'est un sport de rapidité.
Deuxième question entre Laurent et Emmanuel, qui a remporté son 20e.
Manu.
Vas-y.
Novak Djokovic.
C'est pas du tout ce sport.
C'est n'importe quoi. Tu peux me poser la question à moi, que pour moi.
Qui a remporté son 21e bouclier de Brennus vendredi soir au Stade de France?
Toulouse.
Toulouse, le Stade Toulouse. La réponse est donc...
Voilà. Je suis désolé, je suis tellement traumatisé, Aurélie.
Question entre
que Laurent répond tout de suite.
Aurélie et Myriel, qui est Mathieu Van Der Poel, qui a remporté hier la deuxième étape du Tour de France et qui s'est emparé du maillot jaune. C'est le petit-fils de quelqu'un.
Myriel.
Vas-y.
Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Un cycliste ancien,
Oui.
Belge.
Non, français.
Non, mais non, c'est bon. Aurélie, vas-y, tu peux Poulidor. Le dire. Hein.
C'est Aurélie qui a dit Poulidor?
Non, c'est moi, Myriel.
Ah, Myriel, c'est toi. Bah, j'avais pas entendu.
Effectivement. Bravo, Myriel.
Poulidor qui était français, mais Mathieu Van Der Poel, il est néerlandais.
Néerlandais. Oui.
Néerlandais.
Question entre Laurent Emmanuel, qui est le ministre britannique de la Santé, qui
Laurent.
A démissionné.
Matt Hancock.
Alors ça, c'est bravo. Hein. Pour non-respect des règles sanitaires, que mais tu aies le nom, c'est bravo.
Non, mais surtout, il a fait un truc terrible. Il a embrassé une femme qui n'est pas la sienne. Ça la fout mal. D'accord. Ça la fout mal.
D'accord. Donc, il est viré pour non-respect des règles sanitaires parce qu'il a embrassé une... Non, c'est vrai?
Bah oui, parce qu'il a embrassé une femme qui n'est pas la sienne. Non, c'est pas une blague.
C'est pas les règles sanitaires.
Non, mais ça fait un scandale. Mais si, ça fait un scandale dans la presse britannique. Il a été obligé de démissionner.
Je vais me pencher sur cette histoire, ça a l'air croustillant. Question entre Aurélie et Myriel. Quelle ville australienne a été reconfinée pour lutter contre le variant Delta?
Je sais plus.
Il y a un opéra.
C'est la plus connue.
Vas-y, Myriam, essaye.
Quelqu'un connaît
plus.
J'ai oublié.
Aurélie, la plus connue.
J'ai oublié.
C'est Sydney, le point ne va donc à personne.
Aurélie, dernière qui l'Australie, non.
Sydney. Bah, l'Australie, c'était la question. Oui, je l'ai dit, t'arrives trop tard. Je viens de le dire. Question entre Laurent et Emmanuel. Elle a été exclue de l'ordre de la Légion d'honneur en raison de sa condamnation.
Manu, c'est Madame Balkany.
Absolument, mais ça ne te fera pas gagner le
Cyclossa.
C'est Myriel qui gagne sa semaine de vacances.
Bravo Myriel, t'as gagné.
Désolé Aurélie.
Une semaine de vacances. Tu pourras choisir entre les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Savoie ou les Alpes du Nord. Une semaine de vacances pour 4 personnes dans les appartements Mona Lisa. Bravo à toutes les deux d'avoir joué avec nous. On rejouera demain, on sait quoi ça. Il n'y a pas de jingle. Eh ben, c'est pas grave. On va enchaîner sur RMC, sur RMC
jingle.
Story. Jingle. Dans un instant, où est-ce que vous déjeunez? Comment? Avec qui? Est-ce que vous êtes devant la télé?
Non,
vous êtes
on ne déjeune pas, on dîne.
À table, on peut déjeuner, on peut dîner, enfin, en famille, vous êtes libre. Mangez, ça te va?
Personne, non, mais personne ne déjeune en famille le midi, en semaine.
Ah, bah, avec la crise sanitaire, détrompe-toi. Il y en a eu des déjeuners en famille.
D'accord.
Parfois, d'ailleurs, un petit peu trop. On vous attend au 32-16 pour nous raconter comment vous dînez en famille. À tout de suite sur RMC Story.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.